Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir. Il a pour objectif d'élire des représentants politiques reflétant la diversité des opinions des votants. Le scrutin à la proportionnelle a le vent en poupe dans la campagne présidentielle française. À gauche, Jean-Luc Mélenchon y est favorable, tout comme Benoît Hamon et Yannick Jadot, qui se sont entendus sur le sujet. Idem au centre, où son instauration a été l'une des conditions de l'alliance proposée par François Bayrou à Emmanuel Macron. Mais la proportionnelle est aussi une revendication de longue date du Front National, qui avait pour la première fois, en 1986, introduit 35 députés grâce à la proportionnelle intégrale, alors instaurée par François Mitterrand. Outil nécessaire, outil démocratique pour les uns, il est aussi un facteur d'instabilité pour ses détracteurs. Alors, faut-il ou non instaurer la proportionnelle en France ? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Jean-Baptiste Lemoine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur Les Républicains de Lyon. Vous êtes
apparenté. Ça a à voir avec le débat.
Ah, et ben alors, vous allez nous expliquer pourquoi. Et vous êtes plutôt défavorable à la proportionnelle, vous allez nous expliquer. En face de vous, pour en débattre, Jean-Louis Bourlange, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien parlementaire européen, essayiste, ancien vice-président de l'UDF. Vous êtes une figure du centrisme français, comme on dit.
Il reste que des figures.
Il y en a quand même de plus en plus en ce moment. Enfin, on parle en tout cas d'une recomposition du centre. Donc, ce qui fait de vous, a priori, quelqu'un de plutôt favorable à la proportionnelle, quel est aujourd'hui votre positionnement sur le sujet ?
C'est une question extrêmement complexe et il faut, à mon avis, l'aborder de façon absolument non polémique. Globalement, il faut partir de l'idée qu'un mode de scrutin peut avoir deux fonctions très différentes. La première, c'est de dégager une majorité de gouvernement. Vous choisissez l'équipe A contre l'équipe B ou l'équipe B contre l'équipe A. Ça, c'est le scrutin majoritaire et ça, sa logique. Et ça permet effectivement de dégager une majorité, mais l'inconvénient, c'est que ça aboutit, parfois de façon assez scandaleuse, à la sous-représentation ou à l'absence de représentation de forces politiques très importantes, dès lors qu'elles sont isolées, qu'elles ne sont pas capables de franchir la barre des 50%. Alors aujourd'hui, le Front National, qui est caricatural, parce qu'il représente, c'est le premier parti de France, je le dis avec beaucoup de tristesse, parce que c'est pas du tout ma sensibilité, comme vous savez, vous imaginez bien, mais il représente quand même autour de 25% ou même peut-être plus de voix, et il a une représentation parlementaire complètement ridicule. L'autre système, c'est de dire que l'élection doit envoyer à l'Assemblée une image représentative, une espèce de photographie en réalité de ce qu'est le corps électoral dans la diversité de ses sensibilités. Alors ça, c'est très bien, c'est ce qui se pratique partout, presque partout en Europe, sauf au Royaume-Uni. Ça marche bien, notamment dans des sociétés qui sont qui ont l'habitude des compromis politiques, comme l'Allemagne. C'est un scrutin proportionnel intégral, l'Allemagne, c'est pas un scrutin mixte. Et ça permet d'avoir effectivement une très bonne représentation, et quand les partis politiques et les hommes politiques sont assez raisonnables, assez ouverts, assez portés au dialogue, ça donne de très bons résultats.
Alors est-ce qu'il faut comprendre de ce que vous venez de nous dire qu'en France il faudrait, mais que la classe politique ne serait pas assez raisonnable aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il y a deux inconvénients aux majoritaires. Premièrement, ça aboutit à une sous-représentation d'un certain nombre de forces. Et deuxièmement, ça devient, à partir du moment où les forces politiques, ça c'est assez complexe à comprendre, mais c'est très important, quand vous avez des forces politiques qui s'allient, par exemple RPR, UDF d'un côté, Parti Socialiste, Parti Communiste de l'autre, au deuxième tour, tout le monde s'unit, chacun dans son camp, et vous avez quelque chose qui marche. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, vous avez quatre forces qui sont complètement séparées les unes des autres. Vous avez le Front National, vous avez la droite, vous avez la gauche modérée, et vous avez l'extrême gauche. Ces quatre forces, elles sont potentiellement plus ou moins égales, pas tout à fait, mais plus ou moins égales, et avec le système majoritaire, ça peut donner n'importe quel résultat. Vous pouvez avoir une force qui a 2-3 points de plus et qui raflera toute la mise. Il faut, à mon avis, trouver une solution mixte, c'est-à-dire un système dans lequel on garantisse une majorité réelle, pas très importante pour que l'opposition puisse donner de la voix, puisse exister, et en même temps une représentation proportionnelle. Ça
donc,
existe.
À cause du contexte, vous êtes plutôt pour une solution mixte.
Oui, non, mais je finis juste par avoir. Ça existe dans les communes, ça existe dans les régions, ça existe. On a déjà ce système.
Oui, parce que là, effectivement, la question se pose pour les législatives.
On a besoin que toutes les forces soient représentatives, soient représentées, et on a en même temps besoin que ce soit pas la pagaille à l'Assemblée.
Alors, Jean-Baptiste Lemoyne, vous avez une position peut-être plus tranchée que celle qui vient d'être exprimée par Jean-Louis Bourlanges. Pour vous, la proportionnelle, c'est non, pour les raisons qui ont été aussi exposées par Jean-Louis Bourlanges.
On vient de l'évoquer. En fait, on a de la proportionnelle dans un grand nombre de scrutins, d'ores et déjà, en France. Le Sénat est composé aux trois quarts. 75% des sièges sont pourvus par le scrutin proportionnel. Les députés français au Parlement européen, également. Les conseillers régionaux, les conseillers municipaux dans les communes de plus de 1500 habitants. Donc on est largement irrigué déjà par le système proportionnel, ce qui permet une représentation assez large de l'ensemble du spectre et des idées dans de nombreuses assemblées. Après, faut-il poursuivre la démarche jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale ? C'est là où moi, effectivement, j'ai plutôt une réticence, puisque je voudrais pas qu'on retombe dans les errements qu'on a pu connaître sous de précédentes républiques.
Quatrième République, avec, je crois, en 12 ans, 20 gouvernements.
Et puis, on a vu quand même, parce que la seule fois où ce scrutin fut adopté dans un cadre départemental en 86, effectivement, il a été très compliqué d'aller faire une majorité à l'Assemblée nationale. À l'époque, RPR et UDF totalisaient 286 sièges. C'était ric-rac. Et donc, on voit bien que ça a d'ailleurs été fait à l'époque par François Mitterrand pour gêner, effectivement, l'alternance qui était en marche. Et donc, moi, je pense que la proportionnelle, au moment où on est... Elle est présentée comme une solution à une forme d'épuisement démocratique qu'on sent bien en ce moment. On sent qu'il y a un climat qui est un climat de défiance, qui est par rapport aux partis établis, par rapport au mode de fonctionnement institutionnel actuel. Mais en réalité, la proportionnelle, je pense, risque de conforter, de consolider ce régime partisan qui, par ailleurs, est relativement rejeté. Et que, parce que une proportionnelle, c'est quoi ? C'est établir des listes. Alors, dans un cadre départemental ou régional ou national, après, ça reste à déterminer, mais c'est quand même ce scrutin de liste. Et qui compose les listes ? Eh bien, ce sont ces fameuses commissions nationales d'investiture, etc., où, effectivement, finalement, le travail local des uns et des autres peut être amené à être mis de côté. J'en parle d'autant plus savamment que j'ai été élu sans aucune investiture, en candidat indépendant, pourtant ayant cheminé de nombreuses années au sein de l'UDF, puis des Républicains.
C'est l'explication d'apparenté.
C'est l'explication d'apparenté. Et pour dire que, si effectivement, à un moment, j'avais laissé mon destin, sans personnaliser, dans les mains d'une commission d'investiture, d'un parti,
Vous ne seriez pas sénateur et là pour en parler.
Et donc je pense que par rapport à ce phénomène d'épuisement démocratique qui est palpable, on voit bien que...
Alors attendez, parce que là vous donnez beaucoup beaucoup d'arguments déjà. Je voudrais faire réagir peut-être au premier, celui de l'instabilité. Je rappelle juste pour nos auditeurs que cette proposition d'étendre par exemple à l'Assemblée nationale le scrutin proportionnel est notamment une idée d'Emmanuel Macron qui doit probablement la préciser cette semaine. Jean-Louis Bourlanges, sur cet argument, celui de l'instabilité d'être évoqué.
Je crois que l'instabilité sur la Quatrième République a toute autre cause, notamment l'absence de droit de dissolution qui fait que l'Assemblée nationale était souveraine et pouvait se permettre de changer les gouvernements, de renverser les gouvernements comme elle l'entendait sans être sanctionnée. La grande mutation, la grande transformation apportée par la Cinquième République, c'est le droit de dissolution à la discrétion du président de la République, qui est un instrument de discipline formidable. Ce que je crois, c'est que moi je suis tout à fait conscient de la nécessité d'avoir une majorité et je ne voudrais pas qu'il y ait une chambre, un gouvernement. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les effets de du scrutin majoritaire peuvent être considérables. Prenons une élection comme celle de 93. En 93, eh bien, le Parti socialiste n'avait pas 60 parlementaires. C'est-à-dire, il réussissait avec quelques-uns à avoir dépassé la barre des 60, c'est-à-dire qu'il n'était même pas en mesure de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel, parce qu'il n'avait pas les 60 députés requis. C'est quelque chose qui est complètement déformé. Alors vous avez une chambre, vous avez 400 personnes du même parti, c'est beaucoup trop. Ça ne correspond pas du tout à l'état réel des forces. Et ce décalage entre la force parlementaire qui est d'un côté et la force réelle dans le pays qui n'est pas là, ça donne des résultats mauvais. Par exemple, Villepin avait obtenu une majorité pour son contrat, je sais plus comment ça s'appelait, contrat
nouvelle
emploi
embauche.
Jeune.
Oui, contrat nouvelle embauche,
le CNE. Nouvelle embauche. Il avait obtenu une majorité dans le pays légal, si je puis dire. Il avait obtenu par l'Assemblée et la rue était totalement hostile et Chirac a été amené à faire prévaloir la rue contre l'Assemblée. Donc il faut, me semble-t-il, c'est peut-être une position un peu centriste, mais il faut vraiment ménager les choses. C'est très faisable. Moi, j'ai un projet tout à fait simple qui part du scrutin départemental que vous avez évoqué en 86 et qui consiste à donner dans chaque département une prime au parti ou à la coalition de partis arrivée en tête, de manière que celui-ci dispose d'une majorité, mais d'une majorité où on ne dépasse pas les deux tiers. Si vous voulez, quand vous avez 40
Donc
voix.
Vous seriez pour une forme de plafonnement, par exemple.
Oui, enfin, mais techniquement, on peut discuter. Il y a toutes les manières sont possibles. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment concilier deux principes. Un principe qui vise à donner au gouvernement une majorité pas trop large, mais relativement solide, et d'autre part, un principe qui vise à ce que l'ensemble des forces politiques représentatives du pays soient effectivement, significativement présentes au Palais Bourbon.
Alors
et ça, c'est possible.
Effectivement, Jean-Baptiste Lemoyne, aujourd'hui, donc, le Front National, je le disais dans l'introduction, hein, veut faire de la proportionnelle la règle pour tous les scrutins. À l'Assemblée nationale, ce serait une proportionnelle intégrale, avec une prime de 30% pour la liste arrivée en tête. Est-ce qu'il est normal, acceptable démocratiquement, que le Front National n'ait aujourd'hui que ces quelques parlementaires, selon vous?
Oui, parce qu'on vit aussi sous le régime, entre guillemets, de la législature de 2012, où le Front National était sûrement moins élevé quand même que le niveau qu'il atteint aujourd'hui. Et donc la législature de 2017, quel que soit le déroulement des présidentielles, verra, je pense, le Front National pouvoir constituer un groupe. 15 députés, c'est à portée. Oui. Et un groupe permet effectivement d'avoir un certain nombre de droits. Et donc moi je crois...
Oui, mais députés, si c'était 15 députés sur 577,
mais c'est projections, quand même, c'est quand même rien.
Les projections vont plutôt entre 50 et 100, oui, en réalité. Mais je dis, on verra, je faisais par rapport aux 15, par rapport à la création d'un groupe parlementaire.
Le parti isolé, vous êtes d'accord, est quand même structurellement très très profondément défavorisé.
Mais je pense que... par rapport aux enjeux actuels, même avec le scrutin majoritaire, vous savez, on l'a bien vu, c'est compliqué d'arriver à tenir une majorité. Et je crois beaucoup, justement, au nouveau pouvoir dont les parlementaires pourraient se saisir, pouvoir d'évaluation, de contrôle, pour faire en sorte qu'on n'ait pas effectivement un pouvoir absolu qui règne et qui décide depuis l'Élysée sans qu'il y ait de contre-pouvoir. Parce que c'est ça le CPE à l'époque, ou depuis Matignon. Et je crois qu'il faut que dans l'hygiène de vie des parlementaires, il y ait beaucoup plus ce côté systématique, non seulement de légiférer, mais d'évaluer, de faire des retours d'expérience et de ne pas avoir une majorité godillot, en clair. Et que ainsi puisse s'exprimer une sorte de diversité. On l'a bien vu, François Hollande lui-même a été confronté à ces frondeurs. Alors effectivement, ce n'est pas organisé par le mode de scrutin, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la diversité des opinions, on l'entend quand même assez bien dans l'enceinte parlementaire.
Le système que je propose, et auquel vous ne pouvez pas ne pas être sensible compte tenu de votre propre profil, le système que je propose vise précisément à libérer les forces politiques. Parce que dans un système de liste où, pour avoir la prime majoritaire, le parti le plus important doit obtenir des voix, il est obligé de concéder, il est obligé de dialoguer, de négocier avec le second parti. Alors que dans le système majoritaire tel qu'il est actuellement, le parti le plus important, LR par exemple par rapport à l'UDI, écrase. De toute manière, il est sûr au premier tour de l'emporter sur le second parti. Donc il dit, si vous voulez avoir des élus, il faut que vous passiez par mes conditions dès le premier tour et de dire vous obéissez. Tandis que dans le système que je propose, chaque force est là, est nécessaire à l'autre. C'est une prime, c'est un encouragement au respect de la diversité et c'est en même temps une prime à la solidarité. Je crois que ça permet d'atteindre les objectifs que vous proposez, c'est-à-dire la stabilité, l'équilibre, le respect des différences.
Mais est-ce que là on n'est pas en train de passer à un autre stade? Est-ce qu'on n'est n'est pas en train de dire que finalement cette question de la proportionnelle, elle est, elle s'insère dans une plus grande réflexion sur la revitalisation de la démocratie française. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, je ne sais pas, du vote obligatoire, de la reconnaissance du vote blanc,
Jean-Baptiste Lemoyne ? Mais parlons de la revitalisation de la vie politique française. Justement, je propose qu'on aborde le sujet un peu différemment, parce qu'en réalité, on voit bien que le système partisan lui-même, les partis ont du mal à faire venir du monde. Les grandes mobilisations au cours du quinquennat, que ce soit la loi travail, que ce soit les manifestations autour du mariage pour tous, elles se sont faites en dehors des cadres partisans. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être donner plus de facultés aux citoyens de pouvoir interpeller leurs assemblées avec un droit de pétition qui doit être abaissé, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir déclencher un référendum à l'initiative citoyenne, il faut aller chercher, je sais plus, dans 1 ou 3 millions de personnes, c'est inatteignable. Et moi, je propose
même si aujourd'hui les pétitions en ligne peuvent faire. Mais je
propose qu'on ait justement des outils beaucoup plus concrets qui permettraient éventuellement d'inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée une question à partir du moment où 200 000, 300 000 citoyens, ça reste, mais de façon raisonnable, puissent constituer des collectifs. Et donc, je pense que c'est une autre façon de voir les choses, mais qui me paraît aussi intéressante, parce que il n'y a pas que les partis ne sont pas l'alpha et l'oméga de la structuration de la pensée à l'heure actuelle.
Jean-Louis Bourlange, vous partagez cette réflexion ?
Sur l'intérêt de l'affaire, évidemment. Sur les procédures référendaires, je crois qu'il faut regarder ça avec beaucoup de prudence. Le référendum, c'est quelque chose qui simplifie, qui oppose et qui divise. En réalité, je suis un peu un homme du centre, oui, mais je crois que face à une situation politique, c'est faux de croire qu'il n'y a que deux solutions. En général, la bonne solution, c'est celle qui se dégage de la négociation, du compromis, dans un cadre logique, et c'est ça qui permet de rassembler. Notre pays a aujourd'hui, ce qu'il caractérise aujourd'hui, c'est son extrême difficulté à former une majorité. La droite, les forces de droite sont très profondément divisées, les forces de gauche sont très profondément divisées.
Vous rêvez d'un système plus à l'allemande, finalement, qui facilite la culture du consensus.
L'Allemagne, ils ont une culture très proportionnaliste, alors là, avec des grandes sensibilités. Mais chez nous, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a le centre-gauche et le centre-droit, c'est d'ailleurs ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il réussira, mais c'est ce qu'il essaie de faire, qui pourrait s'entendre sur un plan gouvernemental, mais vous avez d'une façon générale des fractures à l'intérieur des camps qui rendent extrêmement difficile la mise en place d'une politique qui soit vraiment soutenue par une majorité de Français. C'est pourquoi je crois qu'il faut vraiment favoriser une réforme de la loi électorale qui permette aux gens de se causer, comme disait Napoléon. Bonaparte disait il va falloir causer. Il causait pas assez, mais il va falloir causer, et il faut que les gens réfléchissent ensemble.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans cette campagne présidentielle, cette réflexion, elle est très présente à gauche, elle est présente au centre, on vient de le voir, elle est totalement absente, en tout cas, du programme, non, des mesures qui sont aujourd'hui portées par François Fillon. Ça veut dire que c'est pas une question pour François Fillon aujourd'hui?
Il assume un maintien des institutions telles qu'elles sont comme pôle de stabilité. D'ailleurs, aujourd'hui, parmi les potentiels candidats éligibles, selon les sondages, les enquêtes, au deuxième tour, il faut rester très prudent, lequel est le plus en mesure, vraisemblablement, d'obtenir une majorité à l'issue d'élections législatives dans le cadre existant, c'est François Fillon. Donc, clairement, il y a cette revendication d'une certaine stabilité du cadre
Oui, mais sauf qu'il semble ne pas entendre tout ce dont on vient de parler, cette aspiration des citoyens à un changement, à une revitalisation,
oui,
à être plus entendu,
aussi,
c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Personnellement, j'ai aucun problème. J'avais choisi Alain Juppé, ça nous fait un point commun avec oui. Jean-Louis Bourlange.
On va finir sur un accord, j'ai aucun problème.
J'ai essayé jusqu'au bout d'amener Alain Juppé à ne pas changer le gant.
Et donc, je pense qu'on sera un certain nombre aussi sur une base générationnelle à être en initiative sur ce type de démarche. Mais j'appelle aussi votre attention sur une chose.
Alors, il nous reste 35 secondes.
Secondes. Le fait, à l'Assemblée, de plus en plus de parlementaires représentent aussi avant tout les territoires métropolitains, les villes, etc. Et donc, ceux qui se ressentent rejetés, la France périphérique, eh bien, elle trouve son exutoire, effectivement, dans un vote qui est souvent un vote Front National, là où en réalité il y a d'autres options possibles.
Et donc ça c'est aussi réfléchir. Cela qu'il faut écouter. Merci beaucoup, je crois qu'on a bien compris que vous n'êtes pas pour une 6e République, mais c'était aussi une ouverture possible. Merci beaucoup à vous deux, Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur de Lyon, apparenté Les Républicains, Jean-Louis Bourlange, ancien parlementaire européen, essayiste. Merci également à Quentin Bresson, à Florence Ponce. On se retrouve demain pour un nouveau débat. Il y sera question, eh bien j'ai oublié, mais je vous donne rendez-vous demain. À demain. C'est vrai.